les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre grand voyage francophone. Aujourd'hui, une escale au Maroc, un détour par l'île de Lesbos, la flânerie d'un Africain à Paris et de la musique en plateau. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Merci d'être fidèle à la librairie francophone. Votre nouveau roman est l'événement de ce printemps. Après Chansons douces, vous vous lancez dans une trilogie autour de l'histoire de l'indépendance du Maroc. Inspiré par la vie de vos grands-parents, que voulez-vous transmettre avec cette histoire, Leïla ?
Je veux raconter que le Maroc est un territoire romanesque.
Que ça ? Ou il y a des messages aussi à faire passer ?
Moi, je ne fais pas passer de messages, c'est le lecteur qui doit les dénicher.
Il y en a plein des messages dans
Évidemment.
Ce livre. Hein, le féminisme, la lutte, le nationalisme, plein de choses. On va y venir évidemment ensemble tout à l'heure. Vous connaissez bien sûr Aziz Samaoui, il est là.
Oui, bien sûr.
Il est avec nous en plateau, c'est un grand musicien marocain. Il croise la musique gnawa et les sonorités contemporaines occidentales. Il jouera un titre dans notre studio. C'est une sommité mondiale qui dénonce le scandale de Lesbos en Grèce. Le Suisse Jean Ziegler du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'insurge contre le traitement des migrants. Et puis nous irons à Paris avec un roman vaporeux, L'étrange Nimrod. Revient avec sa douceur, sa poésie et ses messages aussi. Il porte une réflexion intransigeante sur le regard du monde littéraire sur les Africains.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex, bien sûr, avec nous. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, dans la librairie Atmosphère. Tout va bien pour vous, Claire ?
Tout va toujours bien.
En Belgique, c'est le retour de Nathalie Clérin, qui est libraire à La Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Ça va Nathalie, bonjour.
Bonjour Emmanuel, ça va bien.
Ça va. En France, c'est à Orléans que ça se passe aujourd'hui avec Sophie Todescato, qui dirige la librairie Les Temps Modernes. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Un petit coup de gueule, paraît-il, pour commencer.
Trois fois rien.
Coup de gueule numérique, Sophie.
Oui, coup de gueule numérique inspiré par un récit, celui d'une journaliste qui a récemment eu l'idée de demander quelles données personnelles étaient collectées quand elle se servait de son Kindle. C'est cette liseuse qui est commercialisée par Amazon. Et ce qu'elle a donc reçu, c'est une liste, mais vraiment une très très longue liste. C'est-à-dire pas seulement la liste des romans qu'elle avait téléchargés, mais aussi quel jour et à quelle heure elle allumait l'appareil, les mots qu'elle avait cherchés dans le dictionnaire, et même quelles phrases elle avait surlignées et copiées pour en garder la trace. C'est vraiment la trahison ultime de la machine de faire du livre, cet allié, ce confident qui nous est si cher, d'en faire un délateur et un traître, c'est impardonnable.
Et quelle idée de lire aussi sur une liseuse de cette marque, qu'il faut boycotter, je le rappelle, pour les livres.
Merci.
Boycotter cette marque avec un grand A et puis une espèce de sourire qui me fait pas rire du tout, moi, pour les bouquins en tout cas. Bon voilà, merci beaucoup pour ce coup de gueule Sophie, ça commence fort au Canada. Katia Courteau est libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête, elle déteste aussi le livre numérique. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
C'est vrai, vous confirmez, non ?
Ah, absolument, mais écoutez, ça donne froid dans le dos ça.
Eh oui, c'est comme ça, vous êtes prévenus. Merci à tous les quatre, vous interviendrez bien sûr tout au long de l'émission. Bonjour Aziz Samaoui.
Bonjour.
Vous êtes un grand musicien marocain, chanteur et artiste de la culture gnawa, cofondateur aussi de l'Orchestre National de Barbès. Vous jouerez un titre dans notre studio tout à l'heure, mais on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle, drôle, étonnante, ce que vous voulez. Vous avez carte blanche.
Ça concerne le titre University of Gnawa. Au départ, quand on a annoncé University of Gnawa, des amis, des gens que je ne connais pas sur Facebook me demandent où se trouve cette University of Gnawa parce qu'ils voulaient s'inscrire là-dedans.
Oui.
Je pensais que c'était juste amusant, juste pour rire. Et donc, je continue le jeu, je dis à la personne, la University of Gnawa se trouve à Alger, à Belcourt, un quartier où il y a des Gnawa, les anciens Gnawa. Et la personne va à Belcourt, au quartier, et cherche cette université. Il revient vers moi, il me dit, Aziz, il n'y a pas cette université. Donc j'ai compris que le gars était vraiment sérieux.
Voilà, vous l'avez envoyé à Alger pour rien ?
En fait, il est
algérois. Ah oui, ça va,
Mais voilà, il voulait s'inscrire dans cette université. Et University of Gnawa, en fait, c'est juste un titre pour rendre hommage à la musique des Gnawa et au maître Malmi.
Les Malem, voilà. Et pour fédérer aussi, c'est ça l'université Gnawa. C'est fédérer et propager cette musique partout dans le monde.
Absolument.
Avec toutes les influences du monde.
Oui, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup de musiciens s'intéressent à ça. D'où University of Gnawa, ces fusions, ces mélanges, ces cultures différentes qui se marie très très bien grâce au festival des Sawera notamment.
Exactement. Bon, vous serez avec nous tout à l'heure, on parlera de votre dernier album, vous jouerez. Et d'ailleurs, on va écouter tiens un petit extrait de votre dernier album avant de recevoir Jean Ziegler.
La librairie francophone.
Grand Aziz Samaoui, que nous retrouverons tout à l'heure dans la librairie francophone. Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation, et vous publiez Lesbos, la honte de l'Europe aux éditions du Seuil. Lesbos est une île grecque située au large de la Turquie, dans la mer Égée, qui a été choisie comme lieu d'accueil pour les réfugiés venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan ou même d'Afrique. Au départ, c'était un lieu destiné au filtrage, mais c'est très vite devenu un désastre humanitaire, Jean.
Oui, c'est effroyable ce que j'ai vu à Lesbos, qui est le plus grand camp de réfugiés d'Europe d'ailleurs. Il y a 28 000 personnes maintenant dans une ancienne caserne qui était faite pour 2 000 personnes. Derrière des barbelés, des familles, des enfants, des hommes, des femmes, comme vous et moi, qui sont là depuis 3, 4 ans, derrière des barbelés, détenus dans des conditions d'hygiène effroyables, une toilette, une sorte de cabine métallique pour plus de 100 personnes, tout le temps inutilisable, puante, les conditions d'hygiène sont terribles, la gale partout, la nourriture insuffisante et souvent immangeable.
Avariée, souvent, vous dites dans le livre.
Avariée, et ce camp où les gens maintenant sont tenus comme des animaux, ce camp a été fait pour un premier camp d'accueil, de rétention, d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est devenu...
C'est un désastre humanitaire, Jean Ziegler.
Et
c'est une île magnifique à l'origine. Alors du coup, la tension monte à Lesbos toutes parts. Le week-end dernier, il y a des habitants de l'île qui ont empêché des migrants d'accoster et s'en sont pris d'ailleurs aux représentants du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, aux journalistes sur place également, car leur île est réquisitionnée par l'Union Européenne qui n'arrive pas à gérer la situation. On peut dire ça, que l'île est réquisitionnée?
Vous avez tout à fait raison, cette île est devenue, ça ressemble par un camp de concentration par certains aspects, comme disait le pape d'ailleurs qui était là-bas en 2017. Ce qui m'a le plus frappé, c'est les tentatives de suicide des enfants. Le désespoir des enfants, des petits mecs de 8, 9, 12 ans, des filles aussi qui se mutilent, l'automutilation
qui veulent par se
le
suicider.
Couteau. Et qui font des tentatives de suicide, et parfois ils font le suicide. C'est comme mes petits-enfants, enfin, les enfants sont tous les mêmes, de voir ça. Et ce qui est effrayant quand même, c'est le silence de la France. Pays des droits de l'homme, enfin quand même, c'est pas n'importe quel pays au monde, une responsabilité morale, refuse d'accueillir, il ne s'agit pas d'accueillir 1 million de réfugiés, enfin, il ne s'agit pas de fantasmer, mais quelques milliers de ces enfermés qui ont derrière eux un destin effrayant de torture, de bombardement.
Alors ça, on va y venir. Parce qu'en fait, vous expliquez très bien dans ce livre, Jean Ziegler, que pour contenir l'afflux, on a décidé de provoquer la terreur et de faire passer le message pour que les candidats à l'exil renoncent et restent dans leur pays. Il y a des gardes-côtes grecs, turcs et Frontex. Alors Frontex, c'est l'agence européenne chargée de contrôler les frontières. Et ils empêchent comme ça les bateaux d'accoster en tirant sur les bateaux. Et vous dites qu'au lieu d'avoir des médecins et des sauveteurs à bord, il y a des militaires.
Oui. Frontex est une organisation militaire qui est chargée, d'ailleurs par l'Union européenne, par la Commission, de sécuriser les frontières sud. Mais ils font des pushbacks, c'est-à-dire en haute mer, ils interceptent, c'est des bateaux rapides militaires, les zodiacs des réfugiés, par la violence, en les intimidant, ils tirent tout près, et souvent les zodiacs font naufrage, évidemment.
Alors le commandant de Frontex dit, vous le rapportez dans votre livre, « Notre tâche n'est pas de secourir les naufragés, mais d'assurer la sécurité des frontières. »
C'est une vision du réfugié qui est totalement perverse, qui s'est perverti en cours de route maintenant, sous la pression des mouvements populistes en Europe, le réfugié comme ennemi.
C'est ça.
Moralement, les fondements moraux de l'Union européenne sont érodés si on refuse le droit d'asile et si on crée des conditions inhumaines dans les camps d'accueil. Et deuxièmement, politiquement, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes bombardé en Irak ou comme maintenant en Syrie, et vous avez encore des enfants survivants, vous partez, quelles que soient les nouvelles de Lesbos. La stratégie de la terreur est moralement détestable, mais en plus, elle est politiquement inefficace parce que les soldats continuent.
Oui, ça continue. Alors, Frontex a une autre stratégie dissuasive, connaissant bien les méthodes des passeurs. On va lire un extrait de votre livre. Leïla Slimani a accepté cette lecture. On va écouter ce passage parce qu'il est très révélateur de la façon dont Frontex agit, de la façon dont les autorités européennes agissent, puisque on manipule et on utilise la faiblesse. Leïla Slimani lit Jean Ziegler.
Il faut insister aussi sur une autre stratégie, particulièrement détestable, de Frontex. Les passeurs ne conduisent pratiquement jamais eux-mêmes les embarcations de fortune où prennent place les réfugiés. Ils choisissent un réfugié, en général parmi les plus démunis, lui apprennent les règles élémentaires de la navigation et lui confient le bateau. En contrepartie, le réfugié obtient un rabais sur le prix du passage. Intercepté par les policiers de Frontex, le pauvre R est alors considéré comme un passeur. Il est transféré à la justice grecque. Le délit de trafic d'êtres humains est susceptible d'être puni par 25 ans de prison.
Et voilà. Et c'est le piège.
Total. Cynisme total.
C'est le piège au départ et à l'arrivée.
Alors Frontex est une organisation militaire, je le reviens, vous l'avez dit vous-même très très bien, avec des bateaux de guerre, etc., pour sécuriser, je déteste ce terme, la frontière sud de l'Europe. Et donc le réfugié par les têtes de mule de Bruxelles est vu comme un danger de l'Europe, qui menace le mode de vie européen. Il faut une insurrection des consciences ici.
Bon, on va venir sur votre message, on va écouter les libraires, Jean Ziegler, oui, parce qu'il y en a deux qui ont lu cet essai. On va commencer avec la France et avec vous, Sophie Dodescato.
Oui, on sort de la lecture de ce livre complètement révolté, parce que ces stratégies d'État qu'il décrit, évidemment, elles sont profondément inhumaines, elles sont révoltantes. Mais on en sort aussi honteux d'avoir été naïf, d'avoir cru que l'Europe protégerait les réfugiés. Et honteux aussi d'être rendu complice de ce qui est à la fois une trahison du droit d'asile et une trahison de notre devoir d'hospitalité.
Et c'est vrai que pour étayer vos propos, Jean Ziegler, et vos missives, si vous citez la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant, toutes les deux imposent le droit de bénéficier d'un asile et la protection des enfants sans aucune condition, sans aucune restriction. La Belgique avec Nathalie Clairin a une petite critique sur votre livre, je crois. Nathalie.
Oui, effectivement, le livre est essentiel pour mobiliser l'opinion publique sur l'horreur de ces camps hotspots, Moria en particulier, et pour poser les bonnes questions. Mais je trouve cependant le titre « Lesbos, la honte de l'Europe » ambigu, dans la mesure où ce titre risque d'éclipser les responsabilités non prises du régime syrien et de sa lâcheté, et du régime d'Erdogan. Et pour moi, il ne dit pas assez la honte que le chantage turc représente par son instrumentalisation de cette souffrance humaine.
Alors c'est vrai que la situation est explosive, en ce moment même, entre la Turquie, la Russie et l'Europe. Et cela fait de Lesbos un jeu de pouvoir et de menaces. Quand vous écrivez la honte de l'Europe, n'est-ce pas la honte de tous ces pays frontaliers, de tout ce qu'il y a autour et de tout le système actuel, avec cette guerre qui ne prend pas fin en Syrie?
Bah, tout ça est juste, mais il faut battre ses ennemis les uns après les autres. Je trouve que le carnage en Syrie depuis mars 2011 jusqu'à maintenant, absence de l'ONU, aucun corridor humanitaire, aucun casque bleu sur aucune ligne, ce bombardement massif des quartiers par ce meurtrier de masse de Poutine et de Bachar al-Assad, des quartiers d'habitation, des hôpitaux, des écoles, etc., tout ça est absolument effroyable, et l'absence de l'ONU et donc de l'Europe dans ce carnage, c'est la totale indifférence depuis mars 2011, est totalement scandaleux. Mais maintenant, ce livre, je suis un peu arrogant de dire ça, voulait être une arme pour cette insurrection des consciences qu'il faut provoquer en Europe. Nous devons obtenir de nos gouvernements qu'ils changent radicalement leur perspective en politique.
Ouais, c'est ça. Et notamment l'Europe.
Il faut accueillir celui qui cherche protection.
Et il y a
ne
des pays.
Ne pas le refouler.
Il y a des pays européens que vous citez, Jean Ziegler, comme la Pologne, qui refuse avec la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie de participer à la relocalisation des réfugiés. Et la Pologne a dit, je cite, que relocaliser ces réfugiés, c'est une menace pour la pureté ethnique du pays.
Ça, c'est un vocabulaire nazi. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est le ministre, le premier ministre polonais qui, en octobre dernier, a dit, et je les cite textuellement donc dans mon livre, qui a dit « Nous n'accueillerons pas de réfugiés parce que nous devons sauvegarder la pureté ethnique de la Pologne. »
Alors,
il y a 8 pays de l'Europe de l'Est qui vivent des subventions, des milliards, 63,8 milliards l'année dernière, qui vivent des subventions, des
versements
de l'Union européenne, et qui refusent, par des motifs purement racistes, de participer au sauvetage des réfugiés. Donc il faut leur couper les subventions.
Mais l'Union européenne les a attaqués en justice d'ailleurs. Oui, ils ont été condamnés, mais ça n'a rien fait.
Ça n'a rien fait,
c'est incroyable,
tout à fait raison.
C'est fou.
La Cour,
chacun fait ce qu'il veut. Quoi.
La Cour, mais justice européenne les a condamnés. Mais il faut leur couper immédiatement tout versement.
Ouais.
Pour les forcer d'accueillir les réfugiés.
Alors dans ce livre, vous lancez un appel, Jean Ziegler, on va terminer avec cela. Vous dites que, comme l'avait dit Benjamin Franklin à Danton, un jour dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans un fameux restaurant, « Il faut utiliser le pouvoir de la honte, et ce pouvoir, nous l'avons tous. » Alors c'est quoi le pouvoir de la honte? Qu'est-ce qu'on peut faire là, Jean Ziegler, concrètement, là, maintenant, aujourd'hui?
D'abord, je le redis, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Nous avons tous
d'accord,
les armes.
Ça, d'accord. Soyons concrets, Jean.
Les armes
qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en sortant de cette émission? Et que peuvent faire tous ceux qui nous écoutent là, à l'instant? Là,
à l'instant, il faut demander l'accueil immédiat des personnes vulnérables, c'est-à-dire des enfants. Ben, il n'y a aucun problème.
Vous par les réseaux sociaux, par des lettres.
Vous utilisez les réseaux sociaux, si vous faites pression sur votre gouvernement. Ce gouvernement, enfin, ou Bruxelles maintenant, a aucun problème d'envoyer des avions, de sélectionner les enfants mineurs non accompagnés, des femmes et hommes malades, etc., enfin, des personnes vulnérables, de les amener, quelques milliers, en Europe, de les soigner, de les accueillir.
Les enfants principalement, c'est ça que vous dites. D'abord, commençons par eux. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y a des enfants qui essayent de se suicider, et la plupart des enfants sont séparés de leur famille en plus.
Bien sûr, parce que c'est les seuls survivants, les seuls survivants du naufrage. Oui, mais il faut le faire, il faut s'insurger, faire pression sur notre gouvernement, avec tous les moyens constitutionnels que nous avons, pour ce gouvernement envoie l'avion, sélectionne les personnes vulnérables, les amener dans les hôpitaux civilisés.
On va envoyer des messages. Leïla Slimani, vous allez faire ça?
Bah oui, bien sûr, je vais le faire comme
allez, on va le faire.
On va le faire.
On va le faire sur les réseaux sociaux, partout
absolument.
Où on peut.
Absolument.
On va le faire. Merci beaucoup Jean Ziegler, vous restez bien sûr avec nous. Lesbos, la honte de l'Europe est paru aux éditions du Seuil. À suivre le nouveau roman événement de Leïla Slimani et Aziz Samaoui qui jouera dans notre studio. Avant cela, voici l'artiste français Voyou avec son tout nouveau titre dans la librairie francophone.
T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète. T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Tu zig, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du fil et de ta vie. Tout c'est beau. Voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux. Choisis.
C'était Voyou avec Les Humains.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Leïla Slimani est dans la librairie pour son nouveau roman Le Pays des Autres, paru chez Gallimard. Vous racontez les prémices de l'indépendance au Maroc, Leïla. C'est une fresque familiale qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est avant tout l'histoire d'un choc des cultures entre une Française catholique et un Marocain musulman. Mathilde et Amine se retrouvent en 1946 à Rabat. Et pour la jeune femme de 20 ans, ça ne se passe pas vraiment comme prévu.
Absolument, ils se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Amine est un soldat de l'armée coloniale, un spahi, qui débarque dans le village d'Alsace où vit Mathilde. Donc c'est un héros plein de panache, très exotique. Et elle le suit parce que c'est un peu une aventurière, Mathilde. C'est une femme qui a envie de vivre des choses de manière très intense. Et elle arrive au Maroc avec l'idée qu'elle sera une sorte de Karen Blixen ou d'Alexandra David-Nil, c'est-à-dire une femme qui va vivre des choses incroyables. Et en réalité, le Maroc, comme son mari, vont se révéler beaucoup plus austère et beaucoup moins accueillant que ce qu'elle imaginait.
Elle dira « Faites que ce pays ne me soit pas hostile. Ce monde me sera-t-il un jour familier ?» C'est vraiment son questionnement dès le début du roman et ça continue pendant 350 pages. Ils vont vivre tous les deux dans une ferme, à l'écart de la ville. Amine travaille beaucoup, se fait avoir, se lance dans de nouveaux projets agricoles et Mathilde est une femme au foyer. Maltraitée parfois par son mari. C'est un peu caricatural ça, non, Leïla Slimani ? C'était la norme ça, une femme soumise un peu battue ?
Vous savez, un roman n'est pas là pour vous dire la norme. Un roman, il est là pour vous raconter l'histoire de deux individus. Et ces deux individus, il se trouve qu'ils vivaient comme ça. Un roman, je pense, à l'inverse, n'est pas là pour être normatif ou pour raconter la majorité des situations, mais pour plonger dans la spécificité d'une relation amoureuse.
Mais vous l'avez choisi, cette situation-là.
Bah oui, bien
sûr. Donc on peut vous reprocher la caricature.
Je l'ai choisi, mais parce qu'aussi, c'était inspiré de choses réelles, de choses que je sais.
Oui, voilà.
Donc c'était violent, c'était violent.
Bon, Amine a changé en tout cas, il s'est assombri, l'homme qu'elle a rencontré en France pendant la guerre a changé, comme si au-delà des traces laissées par cette guerre, il était différent dans son pays. Vous pensez qu'on change effectivement d'attitude quand on rentre au pays, quel que soit le pays d'ailleurs ?
C'est assez courant que vous rencontriez quelqu'un dans un pays étranger, et le jour où vous le ramenez chez vous, d'un coup cette personne vous met extrêmement mal à l'aise, et cette personne qui paraissait si attrayante, voilà, si exotique ailleurs, une fois qu'elle est chez vous, qu'elle est sous le regard de vos amis, de vos parents, vous vous dites mais comment j'ai pu être assez fou pour faire le choix de lui dire de venir chez moi et donc de découvrir aussi mon intimité, ma culture. Il est constamment mal à l'aise face à cette femme, d'autant plus qu'il vit dans un régime colonial et que cette femme elle a la couleur de ceux qui le dominent.
C'est ça. Il y a d'ailleurs un médecin marocain qui va venir soigner Mathilde pour une crise de paludisme. Et il est choqué par ce mariage mixte. Vous écrivez « Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Ces amours-là créent le désordre et le malheur. Les sangs mêlés annoncent la fin du monde. »
Carrément. Oui, ce médecin, il incarne toute une frange de la société qui, à cette époque, voit pour la première fois se créer tous ces métissages. C'est ça qui était passionnant aussi avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que toutes les cartes ont été rebattues et d'un coup, tout le monde est allé sur le territoire de l'autre. Par exemple, les Noirs ou les Arabes, qui dans les livres des petites filles, par exemple pour ma grand-mère, étaient décrits comme des sauvages, comme Yabon Banania, ou bien l'Arabe toujours avec un couteau entre les dents, comme quelqu'un de dangereux. D'un coup, il est un héros. Il est l'homme qui vient libérer votre village. Et il est là, tout près de vous. Il n'est plus si étranger qu'il l'était. Donc c'est ça aussi, c'est tout un monde dont les frontières sont démolies. Et tout le monde s'est mélangé. Et cet homme-là, il incarne ça. La crainte qu'on entend aussi aujourd'hui, les gens qui vous parlent de grand remplacement ou de pureté ethnique, comme vous venez d'en parler pour la Pologne, c'est quelque chose qui perdure. Cette idée qu'il ne faut pas que les gens se mélangent.
Et c'est vrai qu'ils auront deux enfants, dont une fille Aïcha, qui va justement souffrir de son métissage à l'école. On va parler du métissage avec Aziz Samaoui tout à l'heure. Il a plein de choses à dire sur le sujet. Vous soulignez aussi les différences culturelles à travers les fêtes traditionnelles. L'Aïd el-Kébir pour les Marocains et Noël pour les Français. Et les deux fêtes se sont longtemps côtoyées sans problème au Maroc, Leïla Slimani.
Oui, bien sûr.
Jusqu'au moment de l'indépendance, où ça commence un peu à vriller, comme on dit.
Après, ça dépend des couples aussi. Ce que j'essaye de raconter, c'est que l'amour, c'est peut-être justement d'aller vivre dans le pays de l'autre. C'est finalement accepter de vivre sous le climat de l'autre, de subir ses tempêtes, de s'acclimater à sa topographie.
Elle a du mal, elle.
Oui, elle a du mal.
La française a du mal.
Mais par exemple, mes grands-parents, moi je me souviens très bien, cette histoire par exemple de sapin. Mon grand-père, il allait voler des cyprès pour ma grand-mère pour qu'elle puisse avoir un Noël. Et ma grand-mère...
Voler dans la forêt.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il allait couper un arbre
chez sa voisine. Mais ma grand-mère, par exemple, elle faisait un effort aussi. Bon, elle a appris très très bien l'arabe, elle parlait le berbère, elle faisait des efforts aussi pour faire les fêtes musulmanes. Donc la vie comme ça d'un couple mixte, elle repose sur des petites choses comme ça.
C'est vrai. Trois libraires ont lu votre roman, Leïla Slimani, la Suisse, la France et le Canada. On commence par qui ? Leïla.
C'est difficile de choisir un pays neutre, alors la Suisse.
C'est bien, on l'a pas faite encore,
mon
celle-là.
Mon œil.
Jean Ziegler, monsieur.
Grand puissance impérialiste.
Ah, il est reparti.
Brillant le monde. Non, le mythe de la neutralité.
Bon, Claire Renaud, c'est à vous. Désolé pour l'introduction.
Je me sens pas si neutre, voilà. Ça, je dis tout de suite.
Désolé.
Bon, vous avez aimé ce roman ou pas ?
Ah, j'ai énormément aimé. C'était un pur plaisir de lecture, de lire une vraie saga familiale qui nous embarque dès les premières pages. Et j'ai aimé vos personnages, jamais caricaturaux, et tout en subtilité. On est dans leur tête et on se retrouve dans une autre réalité. Et ce voyage est pour moi un vrai, pur bonheur de lecture. En refermant ce livre, il me reste une image, celle de cette maison, et j'invite tous les lecteurs à y entrer.
Oh, c'est gentil, merci beaucoup.
Elle est émue, Leïla Slimani. Ça va peut-être continuer avec Sophie Todescato en France, quoique elle n'est pas toujours commode.
Oh.
Si, c'est vrai. Allez-y.
Non, je suis très enthousiaste aussi. Je trouve que c'est un très bon roman qui réussit à être classique sans pour autant être conventionnel, être normatif, comme vous disiez tout à l'heure. Tous les personnages ont à la fois de la singularité et beaucoup de chair. Et comme ils sont traités avec le même soin, avec les mêmes égards, qu'ils soient secondaires ou pas, c'est un livre qui est tout aussi convaincant dans les effets de détail que dans cette espèce de rythme très ample de la fresque. Non. À lire.
À lire, Katia Courteau, au Canada.
Oui, absolument. Quel roman puissant. Oui, j'ai adoré aussi. J'ai été complètement transportée dans ce pays des autres, âpre et à feu, devant cette logique de domination aussi qui s'insère partout. Vous nous y amenez avec une agilité sidérante. J'ai été happée par l'intensité de votre récit, vos personnages. C'est dense, c'est envoûtant. J'aimerais y être encore.
Mais il faut le relire.
Merci.
Ou alors attendre les deux autres, on va y venir d'ailleurs, parce que c'est une trilogie. On sent monter une fièvre indépendantiste dans ce roman, c'est vrai, il est là qu'on est parfaitement dans le pays. On a l'impression d'y être, on s'y croit vraiment. Alors il y a une lenteur comme ça dans l'écriture, vous y allez doucement, pas à pas, contrairement à Chanson douce, où vous alliez frontalement dans l'histoire, avec une histoire inventée, enfin inspirée d'un fait divers, mais bon. Là, on sent vous prenez le temps de la romancière. Alors on sent monter les choses. Les Français ne sont plus les bienvenus au Maroc. Les jeunes se réveillent. Omar est son frère Amine autant que la France. Et Omar veut porter la révolte nationaliste. Et vous opposez comme cela deux camps au Maroc à cette époque-là.
Ce qui est très intéressant dans cette époque, c'est que toutes les cartes sont rebattues et que toutes les dominations qui existaient vont être mises en cause. Les jeunes vont remettre en cause l'autorité des plus anciens en leur disant « Vous êtes des faibles, vous êtes des lâches, vous vous êtes laissés dominer par la France. Nous, on va apporter la libération. » Et on refuse votre Maroc archaïque pour aller vers la modernité. Les Marocains vont remettre en cause aussi l'autorité des Français. Les femmes vont voir tout petit espace possible pour elles
et liberté,
pour leur émancipation incarnée à travers la fille du sultan, Lala Aïcha, qui va faire ce discours magnifique où elle va dire un Maroc moderne n'est pas possible sans les femmes, discours qu'elle fait sans le voile, en montrant ses cheveux. Donc un petit espoir pour les femmes, et c'est ça que j'ai trouvé passionnant dans cette époque, c'est que c'est une époque où tout paraît possible.
Et il faut dire que les colons ont exploité la main d'œuvre marocaine, parfois proche de l'esclavage, on n'en parle pas assez de cela, mais c'était ça dans la plupart des fers. Et on ne voulait surtout pas que les Marocains s'instruisent. On a empêché les Marocains de s'instruire, de s'éduquer.
Bien sûr, on voulait faire suer le burnous, comme on disait à l'époque. Les gens travaillaient de manière très très rude. Il n'y avait évidemment aucun horaire, aucun respect par exemple de la religion non plus, ou des traditions des gens. Quel que soit si c'était le ramadan, en plein été, vous travailliez toute la journée, personne n'en avait rien à faire. Et bien sûr, aucune instruction pour les Marocains.
Vous racontez à la fin du roman l'année 1955, année charnière pour l'indépendance du Maroc. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré par le sultanat du Maroc en 1912. C'est une nouvelle époque, de nouvelles perspectives et une nouvelle vie pour votre famille, Leïla. Et ce sera l'objet donc du deuxième volet de cette trilogie annoncée, c'est ça ?
Oui, absolument. Il y aura une petite ellipse, mais ensuite j'ai envie de plonger vers les années 70, qui sont pour le Maroc des années très importantes. Ouais. Voilà, les années de bascule vers les années de plomb, vers la dictature de Hassan II. Donc voilà, un autre moment très confus et très trouble aussi.
Merci beaucoup Leïla Slimani.
Merci à
vous. Le Pays des Autres est paru chez Gallimard. Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Tiens, allons-y. Pendant qu'Aziz Samaoui s'installe pour son titre en acoustique dans notre studio, on va partir au Canada avec Katia Courteau pour un coup de cœur, Katia.
Oui, un coup de cœur en poésie. C'est « Souvenirs liquides » de François Turcot aux éditions La Peuplade. J'ai adoré ce recueil. Cette poésie ne survole pas le quotidien et y prend part, montre l'incapacité à être son désir comme à s'inscrire dans le réel. C'est une langue ciselée qui bouscule et qui apaise à la fois. Il y a quelque chose de frais, de fort, de sucré et de chaud. C'est excellent.
Les souvenirs liquides, rien que le titre donne envie, de François Turcot aux éditions La Peuplade. Merci Katia. En Belgique, un coup de gueule, Nathalie Clérin.
Oui Emmanuel, moi je vois trop de lecteurs, quand je leur propose un recueil de nouvelles, le refuser en bloc, sans finalement savoir trop bien pourquoi. Alors je voudrais les rassurer, les nouvelles, non, ce ne sont pas des contes poussiéreux. Les recueils, ce sont le plus souvent des récits aux personnages réalistes, attachants, réunis par un fil rouge intéressant. Alors actuellement, ce genre littéraire se redéveloppe dans les littératures de différents pays. En français, je pense notamment à Éric Emmanuel Schmitt, Geoffrey avec ses micro-fictions en 2018, ou au magnifique prix Goncourt dernier de Caroline Lamarche, Nous sommes à la lisière.
Il faut lire, effectivement, les...
Ne vous privez pas de cela.
Les nouvelles, mais bien sûr, il y a des recueils de nouvelles absolument magnifiques. Merci beaucoup Nathalie. Aziz Samaoui est installé, le cofondateur de l'Orchestre National de Barbès, poursuit une carrière en solo exemplaire, réputée et connue à travers le monde entier. Le voici dans la librairie francophone pour un titre acoustique tout de noir vêtu, avec deux micros, un pour son instrument et un pour lui. Aziz Samaoui, c'est à vous.
الحجرة جالسة تبكي تبكي كان صرحها في الأسرة ولم يعد فلمن تشكي تهدم البيت انكسر هوى ضحيتها الفتكي بين اليمنة واليسرى رواية القصف تحكي مكتوب مكتوب ولا عمدا جاوك نوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس مكتوب السطور والريح والبطور حلى الغروب على بعض الشعوب خصامات القلوب لما هذه الحروب والطيش والهروب فاطمة فوق الحجرة جالسة تبكي مكتوب مكتوب ولا عمدة جاوب مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس
Aziz Samaoui avec Maktoub qui me regarde en terminant son titre. Merci beaucoup Aziz Samaoui, venez nous rejoindre. Un extrait d'un album compilation qui sortira le 27 mars. Allez-y, installez-vous, je vous en prie.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Aziz Samaoui, vous poursuivez une carrière fondée sur le métissage culturel, musical et humain. Avec l'Orchestre National de Barbès dans les années 90, vous disiez déjà être une machine à effrayer les groupes identitaires et les gardes frontières.
En fait, nous étions un groupe maghrébin, français, kabyle, berbère, et on était en majorité des maghrébins, mais on représentait la France un peu partout dans le monde. C'est quelque chose de magnifique qu'on a perdu maintenant. On retrouve plus cette fraternité, on trouve cette fertilité médiatique aussi, qui fait du bien. Elle est dans ce métissage, elle est dans ce message entre qui voit ce que l'autre fait de bien, ce que l'autre fait de mieux. Et on va ensemble dans ce sens. Donc, l'Orchestre National de Barbès fonctionnait de cette façon. C'était une merveille. Et ça continue d'ailleurs.
Et vous continuez d'ailleurs, parce qu'avec ce nouvel album, Poétique 30, avant la sortie du best-of, comme on dit, j'aime pas ce mot-là parce que c'est anglais, mais cette compilation le 27 mars, il y avait cette volonté de tisser des liens entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Pop, disco, rock se mélangent dans votre musique avec les instruments traditionnels de la culture gnawa.
Oui.
Et ça, ça marche.
Oui, c'est bien de mélanger le ngouni ou le gombri. J'ai choisi le ngouni parce qu'il est dans les aigus, se marie bien à la basse. Mais
quel
le
était l'instrument là?
Là, c'est le mandol. C'est la mandoline, mais le mandol est plus grand, plus large, lumineux, voilà. Et donc, c'est ces sonorités propres à notre culture, mais qui ont toujours, ils ont toujours leur mot à dire. Ils se mélangent très bien avec les sons des guitares, avec les sons des pianos, des synthés. Mais surtout, ils se mélangent à la profondeur du travail de l'autre. Et c'est cette union, c'est cette force qui embellit University of Gnawa.
Alors, le Gnawa, on avait fait d'ailleurs une émission avec la librairie francophone estivale, c'était à Essaouira, on avait fait toute une émission sur la musique Gnawa, avec de grands maalem. C'est une tradition qui mêle la musique, la trance et la thérapie. De grands artistes s'en sont inspirés, vous citez Jimi Hendrix par exemple,
oui,
qui se serait inspiré de la musique Gnawa.
Oui, c'est, on trouve cette pentatonique dans un de ces morceaux qui vraiment copie-collé d'un des thèmes de Gnawa. C'est incroyable. J'ai écouté le morceau, c'est vraiment les mêmes notes. C'est incroyable. Mais c'est propre aussi à cette tonalité.
Leïla Slimani, vous aimez ce croisement, je suppose, la culture Gnawa avec la musique contemporaine. Vous écoutez beaucoup de musique, je crois, vous.
Oui, j'écoute beaucoup de musique Gnawa, beaucoup de musique marocaine. Et je trouve que ce qui est magnifique, c'est que ce qu'il met en avant, c'est que le Maroc est un pays multiculturel, est un pays de métissage. Et contrairement à ce que veulent nous faire croire les islamistes ou les conservateurs qui nous disent qu'on n'a qu'une langue, qu'on est pur et qu'on n'a qu'une tradition, c'est pas vrai. On s'est toujours mélangé aux autres et on a mélangé nos langues. Et c'est ça qui est magnifique.
Aziz Samaoui, votre message, c'est de se rapprocher des autres, de vivre avec les cultures des autres. Vous dites quoi de mieux qu'un quartier avec des Portugais, des Orientaux, des Asiatiques et des Américains? Vous dites on s'enrichit au contact des autres nationalités.
Oui, nous sommes emmenés à vivre plusieurs cultures en une matinée. Le voisin est portugais, puis il y a le français, l'anglais, il y a le togolais, il y a l'algérien. Donc, naturellement, nous sommes dans un métissage qui, pour moi, est la solution d'une paix pour demain. Je veux dire, c'est vrai que c'est difficile. Et moi, comme musicien, c'est mon devoir de mettre ces choses-là en avant. Les gens sont effrayés dans nos cultures, un peu partout dans le monde, de voir un groupe où il y a différentes nationalités.
Eh oui, oui.
Et ça devient quand même, c'est choquant de voir des choses comme ça. Alors qu'il y a des merveilles à découvrir là-dedans, voire plus encore. C'est-à-dire, parfois nous sommes dans cette réduction minimisée, une culture qui est une civilisation beaucoup plus que la nôtre. On découvre beaucoup de belles choses là-dedans.
Le métissage qui est donc la solution des problèmes de l'humanité, voilà, qui devrait plaire à Jean Ziegler.
Absolument, totalement. Totalement.
Alors, je vais vous dire ce que dit Aziz Samaoui pour conclure. Vous dites, je me demande quand l'être humain qui se dit intelligent, qui se dit au sommet de la technologie, va se réveiller et trouver des solutions pacifiques. La solution se trouve dans le métissage. La paix se trouve forcément dans le métissage. Mais quand? C'est la question que vous posez.
Absolument.
Jean? Il est subjugué, bah,
Non, je suis plein. Ça lui plaît beaucoup. Parce que mon fils est moitié arabe,
ouais.
Parce que sa mère est égyptienne. C'est magnifique. Enrichissement formidable.
Très vite.
Pour une note d'espoir, quand même, j'ai commencé les signatures pour ce livre et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens en France qui viennent et qui vous disent « Je suis très fière parce que ma fille est mariée avec un monsieur qui s'appelle Rachid » ou « Mon fils est marié avec une fille qui s'appelle Malika » et la France est un pays métissé, en déplaise à certains.
La France est toute la francophonie.
Exactement.
Merci beaucoup.
Très bien.
Merci Aziz Samaoui.
Très bien.
Votre dernier album en date, Poetic Twins, est disponible en CD et en version numérique le 27 mars, donc un album compilation. Et je n'ose pas annoncer vos concerts car tout s'annule au fur et à mesure avec ce coronavirus. Vous en avez un
nous
maintenu
ou pas?
Nous
sommes quand même bien entourés, bien soutenus. Donc je pense à TV5 Monde, FIP, Le Monde.
Oui.
C'est quand même quelque chose de bien. Je pense
tous les médias, la librairie francophone.
De l'été et Saouira notamment, on ne se rend.
Voilà. Très bien.
Bon. C'est bien de se sentir bien entouré, ça fait du bien.
Merci Aziz, à très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Nimrod.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes très sage depuis le début de l'émission. Vous êtes très doux comme ça, vous arrivez apaisant, poétique et en même temps d'une force incroyable, Nimrod. Dans votre nouveau livre, vous faites la démonstration, l'air de rien, comme ça, pas à pas, que la société occidentale portera toujours un regard ambigu sur les Africains.
Je crois que vous venez de résoudre le problème. Et tout à l'heure, la question que vous posiez à Aziz, il disait que la solution est dans le métissage. Il posait la question, mais pourquoi c'est pas évident pour tous? Mais c'est aussi simple que ça. C'est que ce que nous prenons à l'autre, c'est presque du vol. Nous le prenons, c'est tout.
Bon, dans la traversée c'est de Montparnasse, votre personnage raconte son enfance. Un orphelin adopté par le président ivoirien qui le confiera à une bonne famille. Ils sont 24 dans ce cas, 24 issus des 24 départements du pays. Des enfants adoptés par le président et placés, ça existe vraiment en Afrique?
Et cette histoire est vraie.
Ah oui. En Côte d'Ivoire.
Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufuel-Boigny, avait fait exactement ça. Et quand il y avait encore 24 départements à l'époque, tout ce qui est raconté, c'est à peine romancé.
Ah d'accord.
Vrai.
Alors Kouassi va arriver en France. Oui. Il a l'avantage d'être logé comme un fils de président, du coup, d'avoir des moyens et même un plan de sécurité en cas de besoin, 24 heures sur 24. Oui. Il fera des rencontres dans le quartier des artistes et des poètes à Paris. Il se liera d'amitié avec un certain Jules, un journaliste, critique littéraire, éditeur de Montparnasse. Mais tout se fait lentement, par étapes. Il y va doucement. C'est de la méfiance pour lui. Il se méfie. Des Parisiens.
Ça aussi, je suis parti quand j'étais dans l'un des campus ivoiriens et surtout dans la résidence de Port-Boué qui était à côté de l'aéroport international. Un jour, un de mes copains avec lesquels on tâtait comme ça quand du temps on écrivait encore des poèmes de Mirliton, il me présente un garçon avec des dreadlocks comme cela. Il dit... Tu vois, cet enfant-là, c'est l'un des enfants adoptés du président.
Ah oui.
Il dit, mais fais attention, regarde un peu. Il a des boutons de manchette et regarde,
ses manches.
Ses manches ont quelques griffes. C'est des griffes que tu ne trouveras nulle part. Et en effet, ce sont les griffes du président.
Ah. Alors, il se cachait du coup, ce personnage-là, parce qu'il va rencontrer plein de monde, Kouassi, et jamais il ne va dire qui il est, jamais mais
évidemment,
il va...
c'est une vie très très difficile,
non,
vous
c'est pas,
imaginez
c'est pas
bien.
Ça. Enfin, c'est pas ça, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai écrit le livre, mais... mais Nimrod, c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait, quand Jules lui dit « j'aimerais bien que tu viennes chez moi », lui dit « mais moi je ne t'emmènerai jamais chez moi ».
Il ne lui dit même pas.
Oui, parce
d'ailleurs.
Que c'est trop exigu, il dit qu'il a honte de l'endroit où il vit.
Évidemment.
Et pourquoi il le cache, ça? Parce qu'il se dit que À partir du moment où on saura, on aura un autre jugement.
Mais évidemment, je peux vous raconter une autre histoire très très sans faire long.
Oui, sans faire long.
Je sortais avec une fille, femme d'un ami poète, d'origine finlandaise. Je me rendais compte que quand je sortais ma carte bleue pour payer, une tristesse comme ça l'abattait. Et puis une fois, elle m'invite à Helsinki. Je vais dîner avec l'un des plus grands poètes finlandais, chez Gallimard d'ailleurs, Pentti Holappa, il est dans Poésie Gallimard, cherchez. Oui. Et je prononce ce nom. Ce monsieur tombe presque en apoplexie. Il dit, mais vous parlez bien de cette dame? Je dis, mais oui. Il dit, mais est-ce qu'il vous arrive de prendre telle marque d'ascenseur? Je dis, mais oui, comme tout le monde. Il dit, oui, c'est cette famille. Je tombe des nues. Évidemment, c'est l'une des deux ou trois fortunes mondiales.
Et alors? Je comprends pas l'histoire.
Mais
Simani se marre.
Elle a compris.
Elle a compris. Elle va nous raconter. Tiens.
C'est que parfois tu te rends pas compte de qui sont les gens.
Mais cette fille ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas me dire qui elle est vraiment, parce qu'elle avait peur aussi que...
Ah voilà, oui, c'est ça.
Exactement, comme mon Kouassi.
Oui, ça rejoint ce qu'on dit.
Oui, c'est ça.
On est jugé à sa condition matérielle. Oui. Donc il vaut mieux éviter de raconter toute sa vie. Bon, les libraires.
J'ai adoré cette subtilité de cette fille, mais il fallait que j'aille chez elle.
Il y a plein de choses comme ça dans le livre de Nimrod, c'est incroyable, ça foisonne, et pourtant c'est un roman très court, c'est très subtil et très fort à la fois. Les trois libraires, la Suisse, la Belgique et le Canada, ont lu votre roman. On va commencer par Claire Renaud, qui est en Suisse. Claire.
Alors déjà, votre écriture est d'une telle beauté, d'une telle poésie, que dès les premières pages de nouveau, on a envie de continuer à lire votre ouvrage. Et on tombe jamais ni dans le pathos, ni dans la niaiserie, grâce à votre ironie. Alors ce joli bijou tout délicat et tout raffiné va être malheureusement confronté à la bêtise humaine, quoi, et la plus brutale. En refermant ce livre, en jaillit en fait des dernières pages de la beauté et de la dignité. On veut que ce monde soit meilleur. Et c'est très beau, ça aussi. Enfin, voilà.
Allez, Katia Courteau.
C'est très difficile d'en parler, en fait.
Oui, je vois. Katia Courteau, pour le Canada, veut réagir.
Oui, pour moi, la traversée a été des plus agréables. J'ai, moi aussi, beaucoup aimé la poésie qui s'immisce autant dans votre roman, les regards que vous multipliez sur l'identité donne à réfléchir et votre finale. Alors, votre finale a la force d'une claque.
Ouais.
J'ai adoré.
C'est vrai. Nathalie Clairin, en Belgique.
Oui, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre, notamment pour l'importance accordée au lieu de vie. Alors il faut quand même le dire, il y a un ton parfois maniéré et proustien quand il s'agit de la confession de l'homme-enfant, de l'orphelin, qu'on sent traumatisé par les choix qu'on a fait pour lui. Mais c'est très largement racheté par la suite, parce que justement cet homme s'ouvre au monde et comme un phénix, il trouve enfin son identité.
C'est vrai que sa condition d'orphelin va le hanter toute sa vie, Nimrod.
Je me demande comment ça pourrait être autrement.
Eh oui.
Je sais pas. Moi-même, quand je me posais la question, il y avait des moments où j'étais très emmerdé, pour le dire comme ça, franchement.
Et puis, vous êtes orphelin vous-même?
Oh non, j'ai jamais été orphelin.
Vous étiez embêté, emmerdé, comme vous dites, pourquoi alors?
Mais quand on écrit, on devient son personnage.
Ah oui, d'accord, oui.
Son personnage. Et puis je me suis dit, mais comment tu vas t'en sortir autrement? Et pourtant, ce livre, je l'ai pas écrit du jour au lendemain, j'ai mis 8 ans. Oui, j'ai mis 8 ans. Mais c'est un livre qui faisait 300 pages. J'en ai tant jeté. Donc voilà.
Vous écrivez « Orphelin, je le suis de la pointe de mes pieds à la pointe de mes cheveux, d'où ma grande taille. Que je regarde les marronniers, je respire davantage. Et lorsque je ferme les yeux, je me sens si proche des séquoias californiens ou des eucalyptus de la vallée du Styx en Tasmanie. Ils aiment la solitude. Aussi se tournent-ils résolument vers le ciel. »
Oui, il faut faire bien des facéties, et j'ai passé mon temps à faire des facéties. Voilà.
Bon, merci. Ce petit monde littéraire parisien est sournois, Nimrod. Vous racontez un dîner qui sera l'apogée de ces relations. Lorsque l'on demande à Kouassi s'il croit être devenu un blanc, tout ce monde s'effondre.
Mais il savait, il attendait juste le déclic. Il savait parce qu'il dit, avant, pour bon nombre d'Occidentaux, nous devons nous conformer à la définition qu'ils ont forgée une fois pour toutes de nous.
Ça aussi, c'est l'un des plus grands penseurs qu'on redécouvre sans cesse, William Du Bois, américain, qui était métis. Il dit « la difficulté souvent pour le noir, parce que l'Occident a mis tas de couches de préjugés sur lui, il faut qu'il récupère son propre regard et qu'il compose avec le regard que l'Occident a mis sur lui. » Et c'est ce jugement-là fait que je reçois autant de critiques de la part des Africains qui sont très très durs parce qu'ils savent pas eux-mêmes se situer. Ils avalisent volontiers le regard occidental sur eux. Et c'est ça le problème.
Bon voilà, plein de choses à découvrir. Dans le roman de Nimrod, vous avez fasciné Jean Ziegler et Leïla Slimani, ils sont captivés. Merci beaucoup Nimrod, merci infiniment.
Merci vraiment de m'inviter.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir Nimrod, vous êtes ici chez vous. La traversée de Montparnasse est parue chez Gallimard, Continent Noir. On termine cette émission vite avec un coup de cœur d'un de nos libraires. Et Claire Renaud pour la Suisse a un joli coup de cœur.
Un coup de cœur pour La Scandaleuse Madame B de Pierre Béguin aux éditions Albin Michel. Imaginez une vieille dame au salon du livre qui se tient derrière sa pile d'ouvrages. Une personne passe, l'insulte et dit « N'achetez pas son livre !» Cette scandaleuse, c'est Madame Josette Bauer qui avait défrayé la chronique à Genève et en Suisse dans les années 60 pour complicité de meurtre. Mmh. Et un auteur américain va s'intéresser à sa vie rocambolesque, c'est Truman Capote. Je vous le recommande, il est passionnant.
Les amateurs de littérature auront été servis cette semaine. Merci beaucoup Claire Renaud, La Scandaleuse Madame B, c'est aux éditions Albin Michel. Et avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le duo d'origine ghanéenne Onipa et un extrait de Makoma. C'était Onipa avec un extrait de Makoma, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la réalisation Cyril Pascal avec Théo Gomard et Juliette Delperroux, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Jean-Marie Félix et Madeleine Tocher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous devions être au Salon du Livre de Paris, mais ce sera en studio pour cause de coronavirus avec un programme prestigieux et vous entendrez quand même l'ambiance du Salon du Livre de Paris avec une petite surprise. Soyez là, bonne semaine, bon week-end.